Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le pouvoir d'achat, vaste sujet entre la réalité et parfois le ressenti. On est avec Philippe, qui est agriculteur en Vendée. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous avez le sentiment de moins bien vivre aujourd'hui qu'il y a 2 ans ?
Alors, je pense que c'est à peu près cousin germain, parce que nous, au niveau du panier de la ménagère, on a la chance d'avoir des produits, nous, sur l'exploitation, et on échange avec nos voisins. Et on a des légumes dans le jardin. Par contre, il est vrai que pour les produits de consommation autres que l'alimentation, oui, les produits montent.
Bon, c'est plus cher. On va en parler dans une seconde, le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, l'hôpital en crise. 20% des lits sont aujourd'hui fermés. 1 sur 5, faute de soignants. La situation est compliquée, reconnaît le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui évoque une hausse de près d'un tiers des postes vacants chez les personnels paramédicaux, et ce, par rapport à l'automne 2019. Dans l'actualité également, cette nuit de violence à Alençon, dans l'Orne, 13 véhicules ont été incendiés, des policiers visés par des tirs de mortier. Le maire de la commune se dit convaincu qu'il s'agit de représailles après l'interpellation de 2 personnes quelques heures plus tôt pour trafic de stupéfiants. Et puis les choses continuent de s'arranger sur le front de l'emploi. Le nombre de chômeurs enregistre une nouvelle baisse, moins 5,5% au troisième trimestre. Cela représente 206 000 inscrits en moins. La météo avec vous, Peggy. Il fait beau, beau et doux.
Exactement, Amandine. Alors, pour information, la moyenne de saison au nord, en gros, c'est de 14 degrés et 18 au sud. Vous allez voir qu'on est souvent au-dessus, surtout au nord. Sauf à Lyon, c'est vrai, seulement 12 petits degrés cet après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques grisailles tenaces, donc le soleil n'apparaît pas. 15 degrés à Strasbourg, 16 à Paris, 17 à Lille, Bourges, Clermont-Ferrand, 18 à La Rochelle, 20 à Toulouse et Nîmes, 22 à Marseille. Côté ciel, vous l'avez dit Amandine, il fait beau. Les grisailles de ce matin se dissipent encore, alors sauf vers le Val-de-Saône. Il en reste quelques-unes et vers la plaine d'Alsace. Elles restent tenaces et le ciel est un peu plus nuageux, mais pas du tout menaçant entre la Bretagne et l'extrême nord, avec un peu de vent comme en Corse.
Bon, et pour demain, ce sera encore pas mal.
Avec encore du soleil, oui. Après dissipation des grisailles et quelques brouillards, comme aujourd'hui, les grisailles surtout au nord, le soleil va s'imposer sur l'ensemble du pays. Petit bémol tout de même, un ciel chargé le matin entre la Bretagne et le Cotentin, avec un peu de vent annonciateur d'une nouvelle perturbation qui va arriver vendredi.
Bon, on en parle pas trop, parce que c'est horrible.
Voilà, dans l'après-midi, quelques pluies sur le Finistère, pareil autour du golfe du Lion, nuages toute la journée, quelques fines pluies, voire un coup de tonnerre. Et puis encore, c'est vrai que le ciel sera bien voilé toute la journée, un voile qui va gagner les Alpes du Sud dans l'après-midi, mais partout ailleurs du beau temps, des températures encore fraîches le matin et en hausse dans la journée de 16 à 20 degrés au nord et de 18 à 23 degrés au sud.
Et je rappelle que le week-end qui arrive, c'est un lundi en plus, puisque c'est lundi 1er novembre.
Et exactement. Qu'on change d'heure.
Certes, oui, ce donc week-end. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. On va dormir une heure de plus et on va travailler une journée de moins. Donc,
c'est parfait.
Mais sous la pluie.
Mais oui, sous la couette, vous voulez dire. 13h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes donc avec Philippe qui est agriculteur en Vendée. Et ce problème du pouvoir d'achat qui est sans doute le sujet prioritaire de l'élection présidentielle, en tout cas c'est ce que disent les Français. Est-ce que d'abord vous diriez ça ? Est-ce que pour vous c'est le sujet numéro un devant la sécurité, devant la crise politique actuelle, la crise sociétale aussi ?
Le sujet est important parce que les gens qui ont des revenus à 1200 ou 1500 euros, oui, c'est sûr que boucler les fins de mois, c'est compliqué.
Mais pour vous ?
Pour moi, non, c'est pas le sujet prioritaire. Il y a des sujets bien plus importants à traiter que cela au niveau de la présidentielle. Oui, comme vous le disiez, la politique aujourd'hui nationale et internationale m'inquiète plus. Le réchauffement climatique est un fait majeur et qui est que nous, on constate régulièrement dans nos travaux au fur et à mesure des saisons. Ça, c'est des sujets plus importants. Voilà.
Mais il faut s'inquiéter. Vous cultivez quoi, Philippe ?
Alors moi, je suis éleveur de porc, on a 280 truies sur l'élevage et on cultive des terres pour faire des céréales, pour nourrir une partie des animaux, parce qu'on n'en cultive pas suffisamment.
Bon, Philippe, on va sécuriser, j'emploie souvent ce mot-là, la liaison, parce qu'elle n'est pas extraordinaire. Et on va enchaîner peut-être avec Patrick, toujours sur ce thème du pouvoir d'achat. Bonjour oui. Patrick.
Bonjour à tous. Bon, moi je vais faire exploser le standard, je le sais, mais c'est pas grave.
Pourquoi ?
Parce que je ne pense pas. Je pense tout simplement que ce sont les achats qui ont changé. je ne pense pas que le pouvoir d'achat a été modifié et il y a des augmentations tant qu'on le dise. Mais par contre, les achats ont été modifiés depuis deux ans. Ah bah, c'est-à-dire que avec la crise, donc, déjà les gens ont redécouvert d'aller acheter directement à la ferme et autres. Sauf que les prix que l'on peut trouver même en direct sont souvent plus élevés qu'en grande distribution. Mais ça, les gens n'en tiennent pas compte. Les gens se sont mis aussi beaucoup au bio. Et là, de ce côté-là, bah oui, le bio,
c'est un peu plus cher.
Ensuite, les gens, comme ils s'ennuyaient, comme ils avaient besoin de se divertir, ils se sont abonnés à des tas de choses. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont maintenant coupé les abonnements. Donc ça continue.
Mais oui, mais vous avez des statistiques précises, Patrick, pour dire tout ça, non, ou c'est au doigt mouillé?
Il suffit d'en parler autour de soi. Vous savez, autre chose, les gens pendant deux ans s'étaient mis plus ou moins, je dis bien plus ou moins, à la cuisine. C'est-à-dire qu'ils achetaient et ils consommaient. C'est terminé. Ils sont revenus à l'ancien système. Et là, ils découvrent, ça coûte plus cher. Bah oui.
Il y a des choses qui ont augmenté quand même, l'essence, ça a augmenté.
Elle a augmenté de combien? Elle a augmenté, je crois, de 3 centimes par rapport au prix qu'elle avait avant la crise. Mmh. C'est pas une augmentation, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas de la crise.
Donc le pouvoir d'achat elle-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick?
Moi, je fais un peu beaucoup de choses. Je suis commerçant et à la fois, je travaille en grande distribution.
Bon, vous gagnez bien votre vie.
Oui, je me plains pas du tout.
Donc vous n'êtes pas vous-même percuté par le pouvoir d'achat.
Mais non, mais attendez, c'est pas ça. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je vois bien que ça a augmenté. Je dis que les augmentations pourraient être très facilement acceptables et acceptées si les gens regardaient un petit peu leur compte.
Non, mais il est possible que ce que vous disiez soit juste. Voilà. La difficulté de ce que vous dites, c'est faudrait que ce soit étayé par des statistiques. Vous dites les gens ont pris des abonnements.
Je vais vous en donner. Pascal, je vais vous en donner. Ouais. Les statistiques sur les abonnements, c'est simple. C'est grosso modo plus 25%. Vous allez chez Darty ou ailleurs, ils vous le diront tous. Mmh. Ça, c'est un point.
Alors, c'est d'autres des abonnements, points, par exemple, à des télévisions, des choses comme ça, c'est ce que vous voulez dire.
Des plateformes. Privées, exactement. Ça peut être aussi le fait d'avoir acheté du matériel pour vous jouer, et des ordinateurs qui servent maintenant aussi à jouer. Et tout ça, derrière, il y a des abonnements. C'est caché, mais c'est des abonnements. Et puis n'oubliez pas une chose, Pascal. Là, on est en vacances scolaires. Vous l'avez vu, vous l'avez même dit sur vos ondes. Les autoroutes étaient bondées. Les hôtels sont bondés. Les campings, il y a même des campings qui ont rouvert parce qu'il s'est bondé.
Ah oui, c'est beau.
Mais attendez, mais on n'avait jamais tout ça. On n'a jamais eu tout ça avant. Bon, remonter 4 ans en arrière avant la crise, c'était pas le cas. Donc tout ça, ce sont des frais supplémentaires.
Donc le pouvoir d'achat n'a pas diminué.
Non, je pense que ce sont les dépenses qui se sont modifiées. tout simplement. On a modifié nos dépenses. Alors évidemment, il en reste moins.
Vous êtes un bon politique. Voilà. C'est pas ton pouvoir d'achat qui a baissé, c'est que tu dépenses trop.
Voilà. Non, on dépense différemment.
Oui, et plus.
Donc il faut retirer, il faut prendre.
C'est possible. C'est possible.
Si je peux me permettre. Ouais, juste une petite chose, Pascal. Je conseille à tous les Français, au lieu de regarder votre compte bancaire via Internet, imprimez la feuille. Et avec cette feuille, regardez, vous allez voir, vous avez de quoi retirer des dépenses superflues qu'éventuellement vous vous êtes accordées pendant la crise, et on peut le comprendre.
Non, mais
vous
les réglez. Oui, mais j'entends bien.
Et vous allez voir, votre pouvoir d'achat va remonter. Voilà, tout simplement. Et voilà.
Vous êtes un bon patron, vous expliqueriez. Vous avez un mot de Coluche comme ça. Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. Merci Patrick.
Compris, à bientôt.
Merci beaucoup Patrick. Il est 13h08. On va marquer une première pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h11, je salue Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Le pouvoir d'achat doit-il être le sujet prioritaire de l'élection présidentielle? Quels sont les produits qui ont le plus augmenté quand vous faites vos courses? Est-ce la viande, les fruits et légumes? Comment a évolué votre budget course?
On voit tous les semestres une augmentation régulière. Avant, initialement, on en avait pour 150 €. Voilà, et on voit que maintenant, on arrive plus à 180, ce qui fait que au bout d'un an, voire deux, on a à peu près une augmentation pour moi de 30%.
Parlez-nous de votre budget course chaque semaine. Venez témoigner dans l'émission 3210-3210 sur votre téléphone.
On était avec Philippe qui était agriculteur tout à l'heure, on l'entendait mal.
Oui.
Pardonnez-moi, Philippe. Vous voyez.
Oui. Donc, oui, moi je suis tout à fait d'accord.
Le réchauffement climatique également dans ce studio.
Aussi, oui. moi je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent, justement, c'est que les dépenses ont changé de place. Aujourd'hui, autrefois, la nourriture était le poste majeur. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et moi qui produis justement de la nourriture, ce qui m'inquiète, c'est que le prix des denrées, nous, côté producteur, ne monte jamais. Le prix du porc aujourd'hui est le même qu'en 1980. Le litre de lait, les œufs, tout est au même prix qu'en 1980. Mmh. Par contre, à l'étalage, il monte toujours. Vous voyez, nous, depuis le début de l'année, on a perdu 30 centimes sur le kilo de cochon. À l'étalage, la charcuterie, la viande, elle est restée au même prix. Donc, il y a bien des gens qui s'en mettent plein les poches.
Mmh. Non, mais
le consommateur n'en profite pas.
Là où vous avez raison, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des ados, Philippe, chez vous.
Bah, ils sont grands, moi, mes ados. J'ai des petits-enfants.
Aussi. Mais ce qu'on appelle le budget contraint a augmenté. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un enfant de 15 ans, c'est très difficile à ne pas lui offrir un portable, par exemple.
Ah, mais je suis d'accord avec ça.
Donc,
mais
un abonnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le budget contraint.
Oui.
Avant, le budget contraint était plus limité, bien évidemment. Donc ça multiplie les dépenses et effectivement, la vie est sans doute plus compliquée pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui savent en plus, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans, qui savent comment les autres vivent.
Oui, bien sûr. C'est ce que je dis régulièrement quand je vois certaines émissions ou certains de vos reportages. Tout le monde dit on a besoin de plein de choses. On achète des baskets. Aujourd'hui, il y a des baskets qui sont à vendre 1 million d'euros. C'est n'importe quoi. Bon, alors c'est certain.
Ça m'a échappé quand même, des baskets 1 million d'euros.
Mais si, il y en a qui ont été vendus aux enchères, là.
Ah bon,
celle de je sais plus qui, là, un grand basketteur. Mais voilà, il y a des gens qui font
Michael
des placements.
Jordan, paraît-il.
Donc
c'est pas la norme.
Non, heureusement. Mais n'empêche qu'on se permet d'acheter des choses aujourd'hui qui n'ont pas de nom. On achète des téléphones, des iPhones à 1200 euros, 1300 euros pour téléphoner. Ça sert à quoi?
On peut les avoir moins chers si on a un abonnement quand même. Celui qui achète iPhone à 1200 euros.
Mais justement, mais moi, je ne suis pas contre les gens qui s'achètent des choses, mais il ne faut pas qu'ils se plaignent que la nourriture est chère.
Oui, mais il y a des... Comment dire?
Parce que la nourriture,
vivre
c'est vital,
avec 1200, 1400 euros, c'est impossible, c'est ça la vérité.
Non, tout à fait, je suis d'accord. Le logement coûte très cher.
Voilà.
Mais moi, personnellement, ce qui m'inquiète, justement, c'est qu'aujourd'hui, pendant le confinement, vous voyez, moi, je fais de la vente directe de colis. Pendant le confinement, les gens venaient, oui, on aime bien vos produits, on vendait 3 porcs par mois. J'en vends 120 par semaine, autrement. 3 porcs par mois. Maintenant, on en vend un à peine. Parce que les gens sont retournés à la grande surface, c'est à leur course. C'est tout. Mais par contre, ils ne savent pas la marge que la grande surface met dans sa poche.
Mais merci beaucoup, Philippe, de votre témoignage. Vous habitez où en Vendée?
J'habite à Saint-Pierre-du-Chemin, le pays de la Saint-Valentin. On a les reliques de Saint-Valentin chez nous.
Alors ça, je ne connais pas du tout. Comment ça, Saint-Pierre-du-Chemin?
Saint-Pierre-du-Chemin, voilà. Mais c'est une toute petite commune, 1400 habitants, une très belle commune.
En Vendée?
En Vendée, oui. C'est juste à côté de la Châtaigneraie, si vous connaissez mieux.
Bien, je connais un peu la
Châtaigneraie, on est à 30 km du Puy-du-Fou, pour vous situer.
Exactement. Bah, écoutez, vous avez beaucoup de chance, parce que c'est un merveilleux département, c'est un beau département que la Vendée. Merci Philippe. Merci beaucoup.
Merci Pascal de m'avoir accueilli.
Sébastien est avec nous, qui habite pas très loin finalement, puisque Sébastien habite Rennes. Et il est distributeur de fuel, c'est cela Sébastien?
Oui, bonjour Pascal Pro.
Bonjour. Le pouvoir d'achat, selon vous, est la priorité de l'élection présidentielle?
Oui, c'est une des priorités. Ça dépend un peu où on habite, quoi. Parce que c'est vrai que celui qui habite peut-être en ville, il va avoir des priorités plutôt sécurité, délinquance, etc. Moi, je suis dans une commune qui est à 25 km de Rennes. Bon, c'est vrai que là, on a moins de délinquance qu'en ville, c'est certain, comme à Rennes. Mais nous, là, le pouvoir d'achat, notamment, effectivement, l'énergie ou la voiture pour aller au travail, c'est un poste très important. Alors, c'est vrai que nous, notamment, le fuel de chauffage, nous, on chauffe essentiellement des pavillons, c'est pas des appartements. Donc, c'est quand même un poste important qui a pris presque 300 euros en une année, donc sur 1000 litres de fuel. Donc, c'est quand même, ça fait du pouvoir d'achat quand même, 300 euros. En plus, la facture d'électricité qui a augmenté, pour ceux qui sont au gaz aussi. Et puis les gens qui prennent leur voiture, nous en campagne, qui vont à la ville, c'est sûr qu'ils passent tous les jours devant une station-service et puis qu'ils voient que le prix monte tous les jours. Ça provoque quelque part un stress qui effectivement, c'est les Français, pour qu'ils consomment, il faut qu'ils aient le moral. Si on n'en voit que du négatif, c'est sûr qu'ils ont du mal à avoir le moral.
La facture par exemple, le fuel, vous dites c'est pour un pavillon, pour une maison particulière. Le fuel, c'est essentiellement pour se chauffer. Nous sommes d'accord.
Exactement, et faire la production d'eau chaude.
Bon.
Et donc, ces pavillons, déjà, souvent, il y en a quelques-uns qui sont anciens, avec des personnes d'un certain âge aussi dedans. Donc, ça, avec une retraite qui, elle, ne suit pas l'inflation. Donc,
ce qui m'intéressait, moi, c'est la note annuelle de fuel pour une maison, je ne sais pas, 120 ou 130 mètres carrés, une maison sans doute classique, une maison avec 4 pièces, 2 chambres et puis un living.
Alors,
quelle est la facture pour chauffer tout ça sur une année?
Voilà, alors une maison qui est correctement isolée avec une chaudière assez récente, qui a moins de 10 ans, on va dire, on dit qu'il faut 1000 litres au 100 mètres carrés. Donc 1000 litres de fioul aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros, alors que l'année dernière, c'était à peu près 700 euros, mais dans un contexte bien particulier, on est d'accord. Donc
ça va coûter 1000 euros par an.
Voilà, ça fait
donc
100 euros par mois.
Donc c'est en gros, c'est un peu moins de 100 euros par mois.
Ouais, à peu près. Avec des maisons, par contre, qui sont mal isolées, bah là, par contre, bah là...
Donc ça fait du 80 euros par mois pour se chauffer et avoir l'eau chaude.
Voilà, pour avoir une maison, avec une maison bien isolée et une chaudière à centre.
Vous trouvez que c'est raisonnable, a priori, ça paraît pas excessif.
Voilà, alors tout dépend de la maison qu'on a.
Mais si vous avez une grande maison, sans doute, vous avez un peu plus de moyens, j'imagine. Donc ça me paraît encore dans les règles de ce qu'on imaginait, de ce que je peux imaginer.
Oui, si vous étiez en appartement, c'est pour ça que le chèque de 100 euros, qu'il soit en ville ou en campagne, ça n'a pas la même valeur. Parce qu'en ville, vous allez avoir une carte bus, une carte de métro à l'année. Tandis que nous, il faut qu'on prenne la voiture, il faut qu'on chauffe des pavillons à la place des appartements. Et on a en plus donc la TVA de 20% qui est faite sur déjà en plus des taxes. Au lieu d'avoir une TVA certainement à 5,5, parce que c'est quand même des produits de première nécessité, c'est quand même des charges importantes. Là, ça serait vraiment constructif. Et ça, au niveau des clients, nous, moi j'en ai livré une dizaine ce matin, ils nous disent tout ça. Ils ne comprennent pas qu'on puisse mettre une TVA à 20% sur d'autres taxes.
Merci. Merci Sébastien de ce témoignage, là encore, sur le pouvoir d'achat. C'est tous azimuts, forcément, le pouvoir d'achat. Appelez-nous pour nous donner votre sentiment sur ce sujet.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le pouvoir d'achat, Laurent Tessier.
Le pouvoir d'achat vous fait réagir au standard, vous fait réagir sur nos réseaux sociaux, mais appelez-nous aussi pour parler de l'hôpital public. Un lit sur cinq est fermé, faute de personnel. Un manque qui se ressent dans tout le pays. Depuis 2013, 27 000 lits ont été fermés pour faire des économies. Il n'y a plus assez de soignants en France. Thierry Amourou est le porte-parole du syndicat des infirmiers.
Il y a une spirale infernale, c'est-à-dire que plus on dégrade les conditions de travail, plus vous avez de soignants qui partent, et lorsqu'ils partent, ça aggrave encore les conditions de travail de ceux qui restent. Vous avez 30% des jeunes diplômés qui abandonnent le métier dans les 5 ans qui suivent le diplôme parce qu'ils sentent qu'ils ne tiendront pas 42 ans à ce rythme. On passe nos journées à courir d'un patient à l'autre pour finalement avoir le sentiment d'avoir mal fait le travail.
Qui veut encore faire le métier? Médecin, infirmier, aide-soignant, appelez-nous au standard. Parlez-nous de vos conditions de travail. Se sont-elles dégradées ces dernières années? Tiens, un exemple.
Par exemple, lors de la première vague du Covid, dans les services de soins intensifs, une infirmière prenait en charge 6 malades, chiffre qui est passé à 8 lors de la dernière vague.
Le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, sera avec nous à 13h30. Venez dialoguer avec lui au 3210-320.
Bruno est avec nous, il est artisan. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes artisan dans quel domaine?
Dans la maçonnerie.
La maçonnerie.
Oui, dans le bâtiment, maçonnerie.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment que votre pouvoir d'achat a baissé, disons, depuis 3 ans?
Alors moi, j'ai remarqué que ça a baissé quand même depuis déjà quand même mars dernier, au début du Covid, enfin 2019. Quand je vois le panier de courses commence à augmenter énormément, en moyenne, c'est toujours moi qui fais les courses, donc je sais. C'était à peu près une moyenne de 100 euros pour une semaine et demie. Et maintenant, on avoisine quand même entre 130 et 150 euros pour 15 jours. Et on est à 3 à la maison.
Mais qu'est-ce qui a augmenté?
Un peu tous les produits de base, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, toilettes, essuie-tout, et beaucoup la viande aussi. Et comme tout à l'heure, j'entendais un producteur aussi qui a tout à fait raison. On aimerait bien payer pour qu'eux, ils en prennent plus. Mais le problème, c'est toujours les mêmes qui se goinfrent. toujours les gros commerces, tout ça. La distribution, toujours au Kisgoinf et puis au dos des autres.
Et c'est un sentiment qui est partagé par les gens que vous rencontrez autour de vous, qui ont ce sentiment que la vie est plus chère qu'elle ne l'était il y a quelques mois ?
Moi, ouais, un petit peu, oui, j'en parle un petit peu autour de moi, il y a beaucoup de retours un petit peu. Et bon, moi je fais très gaffe à ce que j'achète, donc je vois, j'ai vu très facilement que ça va augmenter.
C'est-à-dire que quand vous dites que vous faites attention, vous regardez chaque étiquette, vous êtes combien vous, quand vous faites les courses ? Vous faites les courses d'abord pour tout le monde chez vous, vous êtes combien ?
Oui, on est trois.
C'est-à-dire
une fille de 11 ans et une compagne.
D'accord, donc vous êtes trois, vous faites les courses, c'est drôle d'ailleurs que ce soit vous, quoi qu'il arrive qu'il ait fait les courses.
Oui, toujours moi qui fais les courses. Bon.
Donc vous les faites combien, une fois par semaine, une fois tout...
En général, une semaine et demie, ça dépend, des fois ça arrive qu'on a toujours besoin d'une bonne
commande. Tous les 10 jours. En général... Donc pendant 10 jours, une fois que vous avez fait les courses, vous n'achetez plus rien. Ouais, a priori.
Des fois, on a toujours besoin des tuyaux de bricole dans le frigo, parce que dans le frigo, ça part quand même toujours plus vite que les autres condiments qu'on met dans les congélateurs ou dans les placards. Les
et pâtes, donc là, pour 10 jours, vous prenez la viande, les fruits, les légumes, les yaourts.
Très peu de fruits, parce que les fruits sont très chers.
Vous trouvez que c'est trop cher, les fruits ?
Ah oui, c'est très 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 cher, les fruits. Si on veut déjà en plus acheter français, c'est énormément cher, c'est dommage.
Et votre budget pour 3 personnes en nourriture, parce que là, quand on parle que de nourriture, nous sommes d'accord, bien quand sûr, vous allez au supermarché, c'est que pour la nourriture. Il est de combien par mois, à peu près ?
Quand je parle de le panier, je parle de nourriture et bien sûr les produits essentiels, c'est-à-dire pour faire le ménage, les produits d'entretien.
D'accord.
On a une moyenne d'entre 130 et 150 euros pour 10 jours.
Pour donc, 10 jours, ce qui fait donc 450 euros par mois.
À peu près, voilà, c'est ça.
Bon, sur ces 450 euros, on enlève 50 euros pour les produits d'entretien, peut-être ? Ou un peu plus ?
Ouais, un peu plus. Hein. Je pense que maintenant, on doit approcher quand même des 70 à 80 euros. Ouais.
Donc, pour 350 euros par mois, vous arrivez donc à faire, si j'ai bien compris, il y a deux menus par jour. Alors, tout le monde ne dîne peut-être pas à la maison, mais en gros, on n'est pas loin. Disons 50 menus, quoi. 50 repas.
Et encore, même pas, parce que moi je suis sur mes chantiers, je reste toujours sans place sur mes chantiers. Donc je ne rentre jamais le midi. Donc il y a trois repas complets sur le soir. Le midi, ma fille mange à la cantine. Donc il y a
une quarantaine de repas. Mais c'est évidemment les choses qui sont essentielles. Mais est-ce que dans votre vie, il y a des moments de plaisir, comme le cinéma, comme le restaurant une fois par mois, des choses qui sont de l'ordre de l'accessoire ?
Avant, c'était un peu c'était plus le restaurant de temps en temps. Maintenant, je n'y vais pas parce que
c'est trop cher.
Donc non, c'est pas une question de ça, parce que même si c'était un peu coûteux, on aimait bien quand même se faire plaisir un petit peu quand même, parce que bon, on travaille assez pour ça. Et c'est parce que comme il faut le pass sanitaire pour l'instant.
Vous n'avez pas le pass sanitaire. Bruno, restez avec nous parce qu'il est 13h27 et on veut faire un petit tour du côté de Facebook.
Eh oui, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Avec monsieur Olivier qui peut-être trouve que la vie est trop chère, notamment à Paris. Vous, c'est intéressant, vous venez par exemple de province. Ça fait combien de temps que vous êtes à Paris ?
Ça fait 3 ans, Pascal.
Bon, est-ce que vous avez trouvé une vraie différence entre Paris et la province ?
Mais écoutez, au niveau des prix, Pascal ?
Bah, c'est un peu le sujet dont on parle depuis
deux heures. Écoutez, non mais alors, je n'achetais rien du tout en Savoie, donc je peux pas vraiment comparer. Quoi. Ici, je n'achète que des gnocchis, donc je sais pas si ça compte, quoi.
Ce garçon est une surprise quasiment
tous
permanente.
Tous les jours, on a une surprise.
C'est-à-dire que les questions les plus simples, il y a une vraie poésie, finalement. Vrai. Bon, que nous dit-on sur Facebook, Camille ?
Alors, pour Jean-Marc, le pouvoir d'achat, c'est la priorité de 2022. Les Français subissent les hausses des prix et rien n'est fait pour eux, à Vicky. Qui n'est pas partagé par Sylvie. Le pouvoir d'achat ne diminue pas, ce sont les dépenses des Français qui se multiplient. Et on termine avec Sandra, je voterai pour le candidat ou la candidate qui priorise avant tout ce sujet du pouvoir d'achat.
Merci, il est 13h28, on marque une pause. On finira avec Bruno parce que c'est intéressant de voir la vie des uns et des autres et de savoir quels sont les plaisirs, je veux dire les plaisirs financiers bien sûr, les plaisirs qui ont un coût. On peut, avec le pouvoir d'achat peut-être qui baisse, peut-être sont-ils plus limités qu'avant. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, on va parler des hôpitaux et Gabriel Attal vient de s'exprimer, le porte-parole du gouvernement.
Ouais, un lit sur cinq, hein, je le rappelle, est fermé à l'hôpital public, faute de personnel. Un manque qui se ressent dans tout le pays. Et vous l'avez dit, Pascal, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, vient de réagir à l'issue du Conseil des ministres.
Ce chiffre de 20% est issu d'une enquête relative à la situation de quelques hôpitaux à la PHP. Il y a effectivement des tensions en ressources humaines dans certains établissements, mais il y a aussi un impact de l'activité de l'épidémie et du Covid, puisque vous savez que nous avons été pendant un certain temps depuis le début de cette épidémie avec des règles qui consistent à ne pas avoir des chambres doubles occupées totalement, c'est-à-dire deux patients dans une même chambre, pour des raisons évidemment de lutte contre l'épidémie, ce qui a conduit temporairement à suspendre un certain nombre de lits pour cette raison. Cela fait des années que notre hôpital souffre de manque de personnel qui nous contraignent à ne pas pouvoir ouvrir tous les lits. Nous rencontrons encore des difficultés de recrutement, des problèmes d'absentéisme, de démission, surtout après la crise et surtout chez les paramédicaux.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui vient de réagir à l'instant à l'issue du Conseil des ministres.
On termine la séquence pouvoir d'achat avec Bruno. Bruno qui nous disait qu'il n'allait pas au restaurant, il n'allait pas au cinéma, parce qu'il n'y a pas de passe sanitaire. Donc c'est que vous n'êtes pas vacciné, c'est ça que je comprends, Bruno.
C'est ça, tout à fait.
Donc vous n'êtes pas vacciné, votre compagne n'est pas vaccinée et votre fille n'est pas vaccinée.
Ma fille n'est pas vaccinée, ma compagne a été vaccinée par obligation de son travail.
D'accord. Et effectivement, ça rend la vie un peu plus difficile pour vous parce que vous vous privez.
Non, pas spécialement. Non, pas spécialement.
Ça vous manque pas.
Non, après, bon, on fait faire des menus emportés, c'est tout, puis voilà.
Parfois, si on doit prendre le train, si on doit aller faire un voyage, vous serez obligé de faire un test PCR, peut-être.
Moi, je prends, de toute façon, je prends jamais le train, déjà, donc je ne voyage pas de ce côté-là. Et puis bon, bah, ça fait 2 ans qu'on ne part pas en vacances, bon, un peu avec la crise, tout ça, donc après, il faut savoir se restreindre aussi.
Ben merci Bruno, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Nous allons changer de sujet, donc on va partir. On va parler à présent de la crise à l'hôpital.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Environ un lit sur cinq est fermé dans les grands hôpitaux publics faute de personnel. Il n'y a plus assez de soignants en France. Qui veut encore faire ce métier? Médecin, infirmier, aide-soignant? Appelez-nous évidemment au standard. On est avec Jérôme Marty, que je salue, qui est le président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour Monsieur Marty.
Bonjour Pascal Praud.
Il y a longtemps que je ne vous avais pas eu au téléphone, ni dedans. Je me demandais ce que vous deveniez.
Je vous manquais.
Exactement. Alors, vous allez écouter peut-être le témoignage de Anne, qui est infirmière, et puis après, on pourra engager la discussion avec nous. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour, Pascal. Comment allez-vous?
Mais ça va très bien. Vous avez quitté le milieu hospitalier public, je crois.
Tout à fait.
Quand
alors,
cela?
Alors, en fait, peu de temps après avoir été diplômée, donc il y a bientôt 40 ans.
Ah oui, c'est pas tout. C'est pas nouveau.
Oui, parce que à l'époque, j'étais de nuit. J'étais seule pour 80 patients. Et je ne pouvais attendre aucun renfort. J'ai très vite déchanté après justement mes prises de fonction en hôpital public parce que je me suis rendu compte que le manque de personnel était crucial. Il m'arrivait.
Bah donc ça veut dire que c'est pas nouveau si vous êtes parti il y a 40 ans.
Non, ça fait plus de 40 ans, oui. Et je vais vous dire, j'étais de service de 22h à 6h et bien souvent j'étais pas remplacée à 6h. Eh bien, à 6h, je continuais jusqu'à 14h.
Donc, vous êtes libérale,
voilà.
Aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je suis libérale, oui, tout à fait.
Et vous n'avez jamais regretté votre choix?
Et je choisis... Ah non, du tout. Je choisis mes missions, j'en fais beaucoup, 90% à l'étranger, d'ailleurs, parce que le travail n'est pas le même, le travail est différent. On a une considération, on a un salaire pour ce qu'on fait. Voilà, tout simplement, ce que je n'avais pas en France, que je n'avais pas à l'hôpital public. Et à l'hôpital public, quand je m'adressais à mes supérieurs, à mes cadres, on me disait, de toute façon, c'est comme ça, et tu dois t'y faire. Et si tu ne t'y fais pas, tu changes, tu pars ailleurs. Donc, je suis partie ailleurs. Voilà.
Jérôme Marty, est-ce que la crise est plus importante aujourd'hui, plus aiguë qu'elle ne l'était il y a quelques années? Parce que j'ai l'impression que le malaise de l'hôpital public, j'entends ça, c'est une antienne.
Oui, vous avez raison. Et oui, effectivement, elle est plus importante qu'elle était il y a quelques années. Vous savez qu'au début de la crise, on avait dit « Attention, le Covid, c'est une crise sanitaire dans une crise sanitaire. » Parce que notre système sanitaire allait tellement mal qu'on ne voyait pas comment cela pouvait bien se passer, alors même que les personnels étaient déjà épuisés. Alors évidemment, en sortie de crise, ou en fin de crise, on peut l'imaginer, les personnels sont encore plus épuisés, il en manque encore plus. un lit sur cinq fermé actuellement. Alors Gabriel Attal nous dit que c'est en lien avec les chambres doubles qui ont été fermées pour passer en chambre simple à cause du Covid. Il n'y a pas que ça, clairement. Le problème, il est global, Pascal Praud. Le problème, c'est que la médecine de ville va mal et la médecine hospitalière va mal. Il y a des chiffres qui sont terrifiants. Terrifiants. Aujourd'hui, 75% des Français sont touchés par les déserts médicaux, 3 Français sur 4. 75% des internes de l'hôpital public souffrent d'anxiété. 50% des généralistes ont des critères de burn-out. Et on voit bien que...
50% des généralistes ?
50%, oui. Donc,
un généraliste sur deux fait un burn-out ?
Non, un des critères de burn-out. Il y a 3 critères, il a un des critères de burn-out. Mais ça veut dire que vous avez un épuisement qui est extrêmement important des jeunes jusqu'aux plus vieux, de la ville jusqu'à l'hôpital. Et ça... c'est la conséquence des politiques sanitaires successives qui n'ont pas voulu, et votre interlocutrice l'a dit très bien, qui n'ont pas voulu considérer les professionnels de santé comme il le fallait. Et elle le dit, elle va faire des missions à l'étranger parce qu'à l'étranger, vous a-t-elle dit, elle est considérée. Et bien la considération, ça fait partie d'une chose qui évite l'épuisement.
Il y a quelque chose que je saisis mal. La PHP, c'est le premier employeur de l'Île-de-France. Il y a 100 000 personnes. Oui. Paraît-il qu'il y a 35% des gens qui travaillent à la PHP qui n'ont jamais vu un malade, qui sont des administratifs. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question qu'on met peut-être l'argent là où il ne faudrait pas le mettre.
Alors, il y a ça, vous avez raison.
Mais
il y
c'est
a
vrai ou pas, ça, le chiffre
oui,
que
oui,
je donne
oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai,
est-ce qu'il y a trop d'administratifs, par exemple, à la PHP dans l'hôpital public ?
Bah, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis des années. Vous avez des navires hôpital où vous avez quasi un administratif pour un soignant. Donc ça, c'est plus possible, si vous voulez. C'est plus possible, effectivement. Il faut que l'on recentre sur la mission principale qui est le soin. Il faut, encore une fois, considérer les soignants. Et puis, il faut regarder surtout la santé sous l'angle de ce que ça rapporte au pays en termes de richesse et non sur l'angle de ce que cela... on parle tout le temps du coût de la santé, jamais de ce que cela rapporte. Je vous rappelle qu'il y a 2,5 millions de personnes qui travaillent dans les secteurs de la santé dans ce pays.
13h38, on va marquer une pause. Jérôme Marty est avec nous. Vous en êtes à combien de doses, Jérôme Marty ?
Oh, je ne les compte plus.
Non mais combien de doses pour vous-même ? Arrêtez.
Ah, pour moi-même, pardon.
Pour vous-même.
Combien j'ai vacciné ? Non, j'ai fait 3 doses, moi. J'ai fait la 3e dose il y a 3 semaines.
3 doses. Bon, bah écoutez, ouais. On parlera quand même un tout petit peu du Covid, parce qu'il y a un an, à cette époque-là, on confinait. Hein, les gens ont oublié, mais on confinait quand même pour un moment très très long. Hein, et il y a à peu près 5000 cas aujourd'hui en France. Il y en avait 52 000 ou 55 000 par jour l'année dernière, à la même époque. Est-ce que c'est la vaccination qui nous empêche de confiner ? Ou de reconfiner ? Voilà une bonne question que je poserai à Jérôme Marty dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Appelez-nous au 3210 pour parler d'autres sujets. Est-on impuissant face à l'insécurité en France ? 13 véhicules ont été incendiés cette nuit dans un quartier d'Alençon, dans l'Orne, lors de violences urbaines. Des policiers ont été la cible de tirs de mortier. Joachim Pueyo, le maire d'Alençon, est persuadé qu'il s'agit de représailles. Deux personnes avaient été interpellées pour trafic de stupéfiants.
Il y a eu une réaction violente, qui est d'ailleurs inacceptable, et on s'attaque à l'état de droit. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont intérêt effectivement à ce que ce trafic se développe. Il faudra poser les responsabilités. Il faut que les pouvoirs publics s'imposent. Il faut que l'état de droit soit présent. Il y a de la colère par rapport à ce genre de faits. C'est des faits gratuits. Voilà.
Et la préfète de l'Orne a pris la parole il y a quelques minutes.
J'ai demandé des renforts spécialisés. Ils seront présents dans le quartier dans la journée.
Que faire face à cette violence ? A-t-on vraiment la solution ? À qui la faute ? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Président de l'Union française pour une médecine libre. Je l'interrogerai pour terminer tout à l'heure la séquence sur le Covid. Mais pour le moment, terminons avec notre sujet du jour. Un lit sur 5 est fermé dans les grands hôpitaux publics, faute de personnel. Et nous sommes avec Stéphane, qui est aide-soignant. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour M. Martin.
Vous travaillez dans le public ?
Non, moi je suis dans le privé depuis pratiquement le début de ma carrière, depuis à peu près 30 ans, avec un léger petit passage en public une année. Mais
et
non, pas
et
du
c'est
tout
un choix de la même manière que vous avez préféré ?
Oui, il y a quelques années, pour diverses raisons qui étaient un peu différentes, mais les problématiques sont les mêmes dans le public et dans le privé.
C'est-à-dire ?
Elles se rejoignent complètement. Bah, le manque de personnel qu'on crie depuis plusieurs années, je dirais peut-être pas 40 ans comme ma collègue infirmière, mais bien au moins depuis 10-15 ans.
Et quelle est la raison principale selon vous ?
Bah, ça fait des années qu'on réduit effectivement le personnel, qu'on réduit les lits.
Même dans le privé ?
Ah oui, dans le privé encore plus. Les maisons de retraite, avant, c'était 45 places à peu près. Aujourd'hui, on a des maisons de retraite à 80, 90, 120 places. Et on est deux la nuit, enfin 1,5.
Donc c'est parce que ça, c'est pour des raisons de budget. C'est-à-dire que ces maisons de retraite, les patrons de ces maisons de retraite ne souhaitent pas payer un aide-soignant en plus parce que...
Tout à fait. Je dirais même plus ces grands groupes dont vous faites des fois la pub et des fois ça me fait râler pour Korian et Clinéa, par exemple. Parce qu'ils sont là d'abord pour prendre de l'argent avant d'être là pour la santé.
Bon, écoutez, ils ne sont pas là pour vous répondre et il faudrait que le débat soit contradictoire. Mais ce qui est intéressant, moi j'aime bien les cas concrets. Vous dites 80 personnes dans une nuit, par exemple, dans un EHPAD.
Oui, je fais que des nuits.
Bon, et vous dites simplement deux aides-soignants toute la nuit ?
Même pas deux aides-soignants. En général, je suis seul en tant qu'aide-soignant et je suis avec une assistante, une auxiliaire, on l'appelle comme on veut, une ASH, une agent de service, qui en général fait la moitié du temps de la nuit du ménage et qui m'aide que sur l'autre moitié de la nuit. Ce qui fait qu'en général, le premier tour, je le fais tout seul. Le tour de milieu de nuit, c'est à peu près en général seul, bien qu'il soit léger, mais le tour du matin, on est enfin à deux.
Mais s'il y a un souci majeur, par exemple, ou s'il y a deux soucis majeurs, plus exactement, forcément, il y en a un qu'on laisse tomber ?
C'est ça, en gros, c'est à peu près ça. Surtout que maintenant, depuis quelques années, par exemple, vous allez travailler 12 heures, vous n'êtes payé que 10, vous avez des pauses de 1 heure à 2 heures non rémunérées la nuit. Alors quand votre collègue s'en va pendant cette pause, que vous vous retrouvez seul, vous voyez le problème, bien effectivement. Quoi. Bien
bon, effectivement. Aide-soignant, vous avez le sentiment que les jeunes de 20 ans... D'abord, la formation d'un aide-soignant aujourd'hui, après le bac, c'est quoi ?
Normalement, c'est 8 mois, 1 an. Moi, je l'ai obtenu à travers une formation d'infirmier de fille il y a quelques années, c'était un peu différent. Mais en général, c'est à peu près 1 an.
Et vous pouvez rappeler les grandes missions d'un aide-soignant ?
C'est un peu les procédures de Virginia Anderson qui ont été décrites comme au niveau infirmier. C'est pareil, c'est le bien-être du patient, sa prise en charge globale de son entrée jusqu'à la fin, tant pour son hygiène que son confort.
Et puis il y a de la psychologie, bien sûr, l'écouter, de l'accompagner. On peut savoir le salaire d'un aide-soignant ? Vous avez 50 ans, Stéphane ?
Moi, je suis aujourd'hui en intérim parce que je n'ai pas le choix, parce que je suis en surendettement et que si je n'ai pas 2 000 euros par mois, j'ai pour vivre. Mais en aide-soignant, vous commencez en gros à 1 200, si on parle de jours, pour finir, aller à peut-être 1 700, 1 800. Et de nuit, vous avez un petit plus.
Écoutez, on a fait un petit tour d'horizon de la profession d'aide-soignant. C'est vrai, Jérôme Marty, que pour attirer des jeunes dans un métier quand même qui est pas simple, où vous allez accompagner parfois des gens très âgés en difficulté, s'il n'y a pas à la fois la considération de ce métier et puis la valorisation financière, il est possible que les jeunes se détournent de ce job qui est très très exigeant.
Mais c'est l'évidence, et ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles et qui sont, vous l'avez dit, centraux. Excusez-moi du bruit, je suis dans l'avion, mais c'est des métiers qui sont centraux, en particulier en gériatrie. Et tant qu'on n'aura pas sacralisé la fonction de prendre soin en gériatrie, qu'on ne rémunérera pas davantage des professions qui mettent les mains là où vous ne mettriez pas les yeux, Pascal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand ils ont fini leur tour, les aides-soignants, ils recommencent. Et c'est sans fin. Quand vous vous occupez de personnes âgées, de personnes qui sont dépendantes, vous n'avez jamais fini, en fait. Jamais. Donc ce sont des professions qui sont épuisantes, qui relèvent de bien meilleurs salaires et de bien meilleures considérations que ce qu'ils ont dans ce pays. Et ce qui est central, c'est ça, quoi. C'est qu'on connaisse un petit peu la fonction des gens et qu'on arrête avec des sous-rémunérations pour des métiers.
Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est le privé, c'est ceux qui...
Non, mais ne pensez pas ça, que ce soit dans le privé ou dans le public.
Oui, bien sûr, mais là, en l'espèce...
Ce sont des métiers qui sont contractuels. Non, mais c'est des métiers qui sont contractuels. Ce qu'il faut, c'est donner la possibilité de les rémunérer davantage.
Mais je suis d'accord avec vous.
Donc il faut que l'on regarde ça, quoi.
Jérôme Marty, mais vous m'avez intrigué, vous dites que vous êtes dans un avion, mais l'avion est au sol, rassurez-moi.
Et non, il est au sol, on va décoller.
Ah ben vous avez décollé, je voudrais quand même vous parler du Covid dans une seconde, avant que vous décolliez. Mais un petit tour vers Facebook, monsieur Olivier.
Allons-y, sur nos pages Facebook et Twitter. Didi nous écrit, Didi, voilà, c'est son nom. Hein.
C'est un joueur de football, Didi.
Alors là, en l'occurrence, c'est un auditeur, Pascal. Il nous écrit, ce n'est pas une surprise avant la crise sanitaire. C'était exactement la même chose. Eric s'énerve sur notre page. On annonce des investissements à coût de centaines de millions d'euros, mais rien ne se passe jamais pour les hôpitaux. Et on conclut avec Thierry, le personnel existe physiquement, mais les hôpitaux publics n'attirent plus.
13h49, la pause. Jérôme Marty, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Le gouvernement aurait-il préparé toutes ses punchlines contre Éric Zemmour? Tiens, hier par exemple, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, invité de Julien Cillier dans RTL Soir, il réagissait à la proposition d'Éric Zemmour de supprimer le permis à points.
Nous sommes entrés dans le concours Lépine des propositions les plus populistes, catégorie filière automobile visiblement pour Éric Zemmour. Et je ne doute pas qu'un jour M. Zemmour proposera qu'on supprime les impôts, puisque les impôts selon lui seront évidemment un racket organisé par l'État. Mais je pense que la démagogie est sans limite.
Et ce matin, Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, était l'invitée d'Alba Ventura sur RTL.
À chaque jour suffit, non presque que passe à peine, oserais-je dire, mais suffit son épisode. On a eu Zemmour retire sa cravate, Zemmour pointe les journalistes, on a eu Zemmour est contre le permis à points, c'est Zemmour est dans le pré. Moi j'attends, ou en tout cas j'ai envie de voir, si on passe à la saison 2, Zemmour est en campagne. Ce sera peut-être pas exactement la même saison et le même feuilleton.
Le gouvernement, en tout cas, s'intéresse de près à Éric Zemmour.
Mais pourquoi vous nous parlez de ça? Vous voulez que les auditeurs réagissent?
Vous pouvez
sur ce
réagir
sujet
au 3210.
Ah bah écoutez, appelez-nous au 3210 et dites-nous ce que vous en pensez. Vous étiez peut-être à Biarritz d'ailleurs. Hier, c'était intéressant, Éric Zemmour à Biarritz, il y avait des manifestants qui ont crié « Les fascistes ne passeront pas », je crois, ou « Tout le monde déteste les fascistes ». C'était ça le slogan « Tout le monde déteste les fascistes ». Et puis, il y avait des gens qui écoutaient Éric Zemmour. Donc, la soirée était perturbée. Donc, si vous êtes d'un camp ou d'un autre, appelez-nous au 3210. Jérôme Marty, je disais tout à l'heure qu'il y a un an, hein, jour pour jour, on était quasiment aux portes du confinement. Je crois que c'était le 29 octobre. Cette année, il y a à peu près 5000 cas quotidien par jour de Covid, à peu près. L'année dernière, il y en avait 55 000 à la même époque, donc c'est comparable. Est-ce que l'épidémie n'est pas repartie parce qu'on est tous vaccinés à 85 ou 90% selon vous?
L'épidémie, elle repart, si vous voulez, on a une circulation virale. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas d'hospitalisation, qu'on n'ait pas de réanimation. Et ça, c'est en lien avec la vaccination. Le but de cette vaccination, on ne le dira jamais assez, c'est d'éviter de multiplier les symptômes graves et donc les hospitalisations et donc d'emboliser nos hôpitaux. C'est ça le but.
Oui, mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le nombre de cas qui a fortement diminué quand même. On est passé de 55 000 à 5 000. Donc,
oui, il a diminué, mais on voit clairement qu'actuellement, dans les écoles notamment, ça repart doucement. Espérons que ça reste comme ça. Mais encore une fois, on est tranquille parce qu'on voit bien que les gens qui sont hospitalisés, qui sont vaccinés, ne vont pas à l'hôpital.
Donc, j'ai bien compris. Ben, merci Jérôme Barty. Je vais couper la conversation parce que vous allez vous faire autrement réprimander dans l'avion.
Au revoir.
Vous êtes où là? Vous êtes à Paris ou vous êtes à Toulouse?
Je suis à Paris, on décolle.
Et donc, ah ben, vous allez décoller, vous repartez pour Toulouse.
C'est ça.
Oh Toulouse, revoir, quelle chance vous avez de quitter Paris régulièrement comme ça. Il est 13h55, nous sommes avec Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Pascal.
Bonjour, l'heure du crime.
Avec cette question aujourd'hui dans l'heure du crime, est-ce qu'on peut être normal et être aussi un meurtrier?
C'est quoi être normal? Ça, j'aimerais bien que vous disiez à la fin de notre vie. Qu'est-ce qu'être normal?
Et qu'est-ce qu'un meurtrier?
Ça, c'est plus facile peut-être.
Alors attendez, mais c'est pas si facile dans cette histoire. Un acte fou commis par quelqu'un de normal contre vous et moi. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat général qui avait en face de lui, lors d'un procès d'assises, bien sûr, le fameux Béranger Bruns. C'est un charcutier, traiteur, comme vous et moi ou presque, je sais pas si vous avez donné dans la charcuterie, peut-être pas.
Non,
mais
pas.
Qui va d'un seul coup se changer en un meurtrier plus que sanguinaire et donner tous les détails de son crime aux enquêteurs et puis également lors du procès. C'est absolument terrifiant, il va tuer sa maîtresse et il va la découper et il va tuer également le fils de sa maîtresse qui n'a que 4 ans, il va l'étrangler et le découper. Donc il n'avait jamais fait parler de lui jusqu'à présent. C'était il y a une dizaine d'années à peu près, une quinzaine d'années.
Et cet homme
j'ai pas noté la date exacte.
Cet homme a été condamné?
Bien sûr, il a été condamné à perpétuité, il est toujours en prison aujourd'hui, il est arrivé à la moitié de il n'a pas été condamné à la perpétuité pardon, il a pris une peine de 30 ans. Il est arrivé à la moitié de sa peine aujourd'hui.
Et il disait que ce n'était pas lui d'une certaine manière.
Ah si, il dit que c'est lui,
mais
il est incapable. Non, il n'y a pas question de diable, mais il dit je n'ai pas pu m'arrêter. J'étais dans une espèce d'état second, d'engrenage fatal. Je n'ai jamais pu m'arrêter. Vous imaginez les familles des victimes face à ce genre d'explication qui n'en est pas une. Hein.
Bah, la colère est une folie.
La colère est une folie, mais là, c'est une colère poussée à son paroxysme, mais qui n'explique rien, au fond. Donc, les familles sont restées avec
bien
cette
sûr
question.
Mais c'est la colère. Vous êtes un autre, parfois, et en même temps, vous êtes vous-même.
Et là, également, tuer sa maîtresse, c'est pas beau, on est d'accord. mais oui. aller tuer. Pourquoi tuer le petit garçon? 14h30.
Il va être 13h58 dans une seconde. La colère, c'est très intéressant la colère. Vous êtes un autre et en même temps c'est un peu vous mettre. Ira la colère en latin. Une folie. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Les gens qui sont coléreux, faut qu'ils se méfient d'eux-mêmes. Leur premier ennemi, c'est eux-mêmes. Voilà, cher ami, le flash de 14h, la suite avec Éric Zemmour, pourquoi pas des réactions, avec monsieur Facebook, que je vois là-bas, qui paraît très intéressé par ce que nous disons.
Ah mais toujours, je suis là parce que je pars pas.
Et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Le ton monte encore entre Londres et Paris. Si la Grande-Bretagne ne change pas de politique sur l'attribution de licences de pêche aux bateaux français, il y aura des mesures de rétorsion dont une partie entreront en vigueur dès mardi prochain, le 2 novembre. Déclaration du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'instant. Parmi ces mesures, des contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits débarqués en France et l'interdiction de débarquement de produits de la mer. L'obligation vaccinale ne s'applique pas aux soignants qui étaient en arrêt maladie le 15 septembre, le jour de l'entrée en vigueur de la loi. La suspension de 9 agents hospitaliers de la Drôme vient d'être invalidée par le tribunal administratif de Grenoble. Autre décision de justice au niveau européen, cette fois Varsovie est condamnée à payer une astreinte de 1 million d'euros par jour pour ne pas avoir mis fin aux activités de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, une institution clé d'une réforme qui provoque toujours un très gros contentieux entre Bruxelles et la Pologne sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Un petit aperçu de la météo demain. Ce sera à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Brouillard fréquent le matin, sauf dans le sud-est, puis soleil pour presque tout le monde l'après-midi. En revanche, les nuages seront plus nombreux sur la Bretagne, mais aussi le Languedoc-Roussillon. Demain matin, prévoyez 5 à Belfort, 6 à Auxerre, 7 à Gap ou encore 9 à Tarbes. Les courses en Anguin Soisy, les résultats du Quintet plus le voici. Les voici, il fallait jouer le 3, le 4, le 12, le 14 et le 13, le 3, le 4, le 12, le 14 et le 13. La suite des auditeurs ont la parole à 14h02 sur RTL. C'est évidemment avec vous, Pascal Pro.
Merci Agnès Bonfillon.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
C'était un de nos chapitres les plus importants durant cette émission. Des auditeurs ont la parole. Environ un lit sur cinq est fermé dans les grands hôpitaux publics. Faute de personnel, il n'y a pas assez de soignants en France. Nous en parlons depuis une vingtaine de minutes et nous allons conclure ce chapitre avec Martine qui est infirmière et qui habite Reims. Bonjour Martine.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien ?
Je vous entends bien, vous avez entendu Stéphane qui est aide-soignant, vous avez entendu Jérôme Marty tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous partagez les analyses qui ont été dites ?
Tout à fait, mais par contre, moi je n'appelle pas en tant qu'infirmière, j'appelle pour défendre la cause des sages-femmes, qu'on n'entend pas beaucoup. Enfin, on entend beaucoup les sages-femmes, on n'entend pas parler d'elles. Elles sont en grève depuis des mois. Elles alertent depuis des mois sur les fermetures de maternité par manque de personnel, parce que les sages-femmes n'en peuvent plus, elles craquent. Elles sont en sous-effectif constant. Pour vous donner un exemple, en 2018, dans une maternité de Reims, au bloc de obstétrical, il y avait 6 sages-femmes et 4 auxiliaires puéricultrices. Actuellement, elles font 3, des fois 4 sages-femmes et 2 auxiliaires puéricultrices.
Donc ça divisé par 2.
Voilà, divisé par 2. Donc ça veut dire, avec tout ça, avec une augmentation toujours du nombre d'accouchements à effectuer.
Ah oui, en plus, il y a plus d'accouchements, il y a plus de travail, voilà. Il y a moins de sages-femmes et moins d'aides-soignantes.
Voilà, il y a plus de bébés qui arrivent et il y a moins de bras pour les accueillir. Ce qui fait que...
Et pourquoi
par manque de personnel.
Oui, mais pourquoi?
Par un défaut de recrutement, parce que c'est un métier difficile, qui est très mal payée. Il faut savoir qu'une sage-femme qui commence avec... Donc, elles font 5 ans d'études. 5 ans d'études sanctionnées par des concours. C'est une profession médicale. Et elles commencent, les sages-femmes, avec un salaire de 1 800 € par mois. Et leur profession donc n'est pas reconnue comme elle le devrait. Donc, quand vous avez un investissement comme ça, vous...
5 ans d'études, il faut y aller, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas des études doigts-pieds en éventail. Donc, elles se donnent. Ce sont des femmes et des hommes qui se donnent pendant 5 ans pour un métier qui est une passion pour eux, pour un salaire de misère pour commencer.
Mais alors, c'est pas un salaire de misère, 1800 euros. C'est pas un salaire de misère. Bah, c'est pas très élevé, mais c'est pas un salaire de misère, si vous me permettez.
Oui, bien sûr. Mais si vous comparez ça avec les salaires des professions médicales sur la moyenne, elles sont en bas de l'échelle quand même. Hein. Donc, voilà, comparativement à leurs études et leurs salaires, elles sont quand même en bas de l'échelle. Ça, il faut quand même le dire et le savoir. Alors, il y a toujours des filles motivées, heureusement, pour faire ces études-là, mais elles se rendent vite compte au bout de quelques années que c'est juste pas possible. Elles sont sous-effectives, faut dire aussi, même si c'est politiquement incorrect, le sous-effectif met en danger la vie des mamans qui accouchent et des bébés, parce que si vous avez plusieurs urgences en même temps simultanées dans les salles d'accouchement, à trois sages-femmes, si vous avez six patientes qui accouchent en même temps, elles ne peuvent pas prendre en charge correctement et dans toute sécurité pour les mamans et les bébés. Mais ça, les directeurs d'hôpitaux, ils ne veulent pas que ça se sache. Hein, ils veulent bien entendre qu'elles revendiquent une augmentation de leur salaire parce qu'il est quand même dérisoire, j'insiste là-dessus. Qu'il y a un manque d'effectifs, pourquoi? Ben parce que justement, avec un salaire comme ça, vous faites ça pendant...
Non, mais c'est 1800 euros au départ, hein, donc c'est 5 ans, donc 18, 23 ans. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une sage-femme, par exemple, qui travaille depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce que son salaire est très valorisé ou est-ce qu'il...
Non, pas du tout. Là, je peux vous donner l'exemple d'une sage-femme qui travaille depuis 7 ans, elle est à peine à 2000.
Oui, donc là, effectivement, il n'y a plus d'augmentation ensuite. Voilà, on va marquer une pause, si vous voulez bien, et Martine, on va poursuivre la discussion. C'est vrai que les études durent 5 ans après le bac. Pour devenir sage-femme, il faut obtenir le diplôme d'état de sage-femme qui se prépare en 4 ans dans une école de sage-femme qui est rattachée à un CHU après une licence ou un pass. Et pour ces deux parcours, les étudiants sont sélectionnés sur leurs résultats. Et les places disponibles pour entrer en deuxième année d'études de santé sont réparties proportionnellement au nombre d'inscrits en passe, comme je vous le disais. D'autre part, le numerus clausus est remplacé aujourd'hui par le numerus apertus. Martine, vous confirmez ce que je dis? C'est quoi le numerus apertus?
Alors là, moi, je peux pas vous dire. Hein.
Je vais me renseigner. Ouais, tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
En fait, c'est assez simple, Martine, et j'aurais pu m'en douter tout seul. Le numerus clausus s'est fermé. On restreint le nombre d'étudiants. Et le numerus apertus, on ouvre. La formation est ouverte à tous. Martine.
Alors, oui, c'est bien. Alors, la formation, elle est ouverte à tous.
Il n'y a plus de numerus clausus.
Alors oui, vous avez des personnes qui font ces études-là, qui ont les diplômes, etc., qui se mettent sur le marché du travail, qui trouvent du travail, il n'y a pas trop de soucis au départ, mais au bout de 5 ans, 10 ans de travail, où vous avez des gardes de 12 heures, vous enchaînez les gardes de 12 heures, pendant ces 12 heures-là, vous n'avez même pas la possibilité ni d'aller faire pipi, ni de prendre un casse-croûte ou une collation, etc., parce que vous courez pendant 12 heures. Ce qui fait qu'au bout de quelques années d'exercice comme ça, vous voyez des sages-femmes de 30 ans, de 35 ans, qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus.
J'imagine, effectivement. C'est un métier très dur. À 100% féminin, le métier de sage-femme, aujourd'hui, toujours ?
Pas 100%, mais essentiellement féminin.
Bien sûr.
Mais en fait, comprenez bien comment on peut admettre qu'une personne qui s'est investie dans les études, dans un métier quand même qui est de relation, d'empathie avec les couples qui arrivent pour la naissance de leur enfant, comment elles peuvent entourer ces personnes-là avec tout leur savoir-faire et tout ce qu'elles peuvent faire en sous-effectif? Alors elles donnent pendant des années, elles n'en peuvent plus, elles sont épuisées. Et est-ce que vous croyez que c'est logique d'entendre des personnes comme ça qui au bout de 10 ans, 15 ans, changent? Il y a une collègue qui est partie, qui fait maintenant de la pâtisserie, parce que Alice a été un déchirement d'abandonner un métier pour lequel je me suis investie, un métier que j'adore, mais un métier qui me tue.
Mais merci, vraiment merci. Voilà. On a fait un tour complet.
Encore une petite chose, si vous permettez.
Je vous en prie.
Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour que ces pauvres sages-femmes soient entendues, parce qu'elles font grève. Mais les bébés continuent d'arriver, bien évidemment. Mmh. Donc, elles continuent de mettre au monde les bébés. Et donc, ce sont des grèves aveugles, ce sont des grèves sourdes que personne ne voit, que personne n'entend. Et là, elles sont en train de se débattre. Elles ne savent plus comment faire pour se faire entendre.
Merci.
Et donc, merci de m'avoir pris sur l'antenne.
Mais non, c'était intéressant de vous écouter, Martine. Merci beaucoup. On change de sujet à 14h11.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Parlons de ce qui s'est passé à Alençon. Le quartier de Persaigne à Alençon, dans l'Orne, est le théâtre d'une flambée de violence cette nuit. Peu avant minuit, plusieurs voitures et utilitaires sont partis en flammes à plusieurs endroits du quartier. La police, les gendarmes et les pompiers ont été la cible de tirs de mortier. Alors, Alençon, a priori, tu te dis, c'est une ville qui pourrait être calme. Nous sommes avec François, qui habite Maintenon.
Bonjour Pascal.
C'est pas très loin de Alençon, peut-être Maintenon.
Alors là, je, comme tout bon français, j'ai pas cette notion de la géographie. Mmh. Oh, c'est pas très loin, non, je dis ça, non, c'est pas, non. Disons que, alors vous savez, on ajoute chaque jour comme ça la carte de France, vous voyez, donc Alençon. Bon, maintenant, c'est quand même plus calme, hein. Bon, on n'a pas de soucis quand même de trop. Mmh. Mais moi, je suis quand même, je vais vous dire, je suis effaré. Alors, je me disais une chose, comme ça, je sais pas si j'ose en parler, mais c'est, je me disais, mais le policier qui peut prendre, bah, dans sa fonction, une balle, ça peut arriver, hein. C'est pas bon. Je sais pas, ça me pose un problème. Je me dis, mais c'est des situations qui sont. Bah, écoutez, moi j'ai 68 ans, j'ai vécu un petit peu, on va dire. Bah, dans le temps, on est sur d'autres créneaux là. Hein.
On est sur une violence urbaine et notamment parfois pour défendre des points de deal. C'est ce qu'on avait vu hier également dans un des quartiers de France. C'est vrai qu'il y a des tensions qui sont très fortes aujourd'hui dans certains quartiers. Et une violence inouïe pour... c'est un business, le business de la drogue. Alors je ne sais pas ici si c'était le cas hier soir, mais souvent, et on a souvent parlé du film Bachner, c'est un état des lieux de cette situation de dealers qui protègent leur business face à des policiers qui ont du mal à exercer leur métier.
Non, c'est vraiment... Alors c'est ce que je me disais, bon, le président Macron, il y a du bon du mauvais, comme c'est tout être humain. Mais là, au niveau de la sécurité, moi je vais vous dire franchement, il faudrait un chef, il faudrait quelqu'un qui soit pas... bon, je veux dire que bon, c'est bien gentil de faire du football, tout ça, de préparer un peu le futur. Mais moi je dis, il faut aussi qu'on sente quelqu'un qui à un moment donné va quand même... On peut pas continuer comme ça, c'est à un moment donné où... Bon, guerre civile, c'est un grand mot, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'à ce moment-là, on est quand même à un degré quand même d'évolution, sans aller jusque-là. Ou un ministre de la ville, ou quelqu'un qui prenne, mais vraiment, vraiment, vraiment en charge. Est-ce que c'est pas possible? Il y a des solutions.
Oui, la solution, lorsqu'on entend les policiers vous disent tous la même chose. Ils vous disent qu'ils font plutôt le job sur le terrain, mais que la réponse pénale n'est pas assez forte.
Ah, bah ça, c'est vrai.
Je peux pas vous dire autre chose, c'est ce qu'ils disent. Et ont-ils raison, ont-ils tort? Je n'en sais rien. C'est un mot d'ordre que j'entends en permanence des policiers. Alors, c'est vrai que les policiers qu'on interroge sont toujours dans des syndicats de police, faut le dire aussi. Mais c'est une ligne directrice qu'ils ont. Ils disent, voilà, les juges, les magistrats sont trop faibles, ou les peines, le législateur, peut-être est-il trop faible aussi pour ces faits de violence.
Ah, moi, je pense que ça joue aussi à ce niveau-là. C'est sûr que, bon... je m'excuse, je fais un petit aparté parce que je pense à une situation... je prends le problème des squatters. Bon, le squatter, ça rentre chez soi. Tout d'un coup, on se dit, tiens, on n'avait pas invité des gens, là. Donc, ce problème, déjà là, c'est le problème de la loi. Parce que, effectivement, si on se dit, je suis chez moi... Bah, écoutez, messieurs, je regrette, mais bon, c'est pas votre logement. Donc, la loi ne suit pas dans beaucoup de choses comme ça. Et donc, ce qui fait qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, on n'a rien, ou bon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens compatissants parce que, bon, ceci, cela. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Et puis, moi, je dis, bon, j'ai entendu une fois aussi la politique de la ville, des gens, des éducateurs, tout ça. C'est bien, c'est vrai qu'il en faut sur le terrain, mais je crois qu'ils sont dépassés. Je crois qu'à un moment donné, on... Moi-même, j'étais toxicomane, hein. Je vais vous dire que, bon, à soigner des gens qui
vous
sont...
Vous étiez toxicomane, dites-vous?
Non, j'étais infirmière en psychiatrie.
Donc, ah, pardon, je croyais que vous disiez que j'étais toxicomane, j'avais mal au saisi.
Non, pas du tout. Non, donc j'étais à même aussi d'être avec des gens. Mais vous savez, le problème de la drogue, c'est que c'est des gens qui sont, comment dire...
Là, on s'est un peu éloigné, si vous me permettez, de notre sujet et des violences d'Alençon. Et Alençon, vous habitez maintenant, c'est 126 km. Vous voyez, vous pouvez aller faire un tour à Alençon, si vous souhaitez, pour voir ce qui s'y passe. Merci en tout cas, François.
De rien.
Est 14h16 et on va passer par la page Facebook. Allons-y. Maintenant, vous connaissez Madame qui habitait maintenant.
Madame maintenant ?
Non. Madame de maintenant.
Non, je ne la connais pas.
Vous ne connaissez pas Madame de maintenant ?
Non.
Oh, elle était...
Qui est-ce ?
C'était une femme illustre.
D'accord, Pascal, bah écoutez. Bon. Voilà, je m'endormirai moins bête. Donc regardez, sur nos pages Facebook et Twitter, Jean-Noël nous écrit « Tous les jours et pas une ville qui est épargnée par ces violences. Pour Bernard, le trafic est une réponse à la misère sociale de ces quartiers. » Et on termine avec Jean-Marc. « Comment ne pas avoir un sentiment d'insécurité quand on voit ce genre de fait dramatique ?»
On va marquer une pause et c'est toujours un plaisir, bien sûr, de passer par la page Facebook pour écouter les auditeurs et de saluer évidemment notre ami Olivier. On va peut-être parler d'Éric Zemmour ou encore d'Alençon, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Comme il nous reste la possibilité de ne parler qu'avec un auditeur, on va peut-être parler avec José, qui est dans les quartiers nord de Marseille, ou Eric, qui voulait nous parler d'Alençon. Qu'est-ce que nous choisissons ? Allez, on parle de José et d'Éric Zemmour, parce qu'on n'avait pas évoqué aujourd'hui son meeting d'hier, même s'il n'est toujours pas candidat. Bonjour José.
Monsieur Pro, si vous savez le plaisir que j'ai de vous avoir.
Et vous êtes gentil, monsieur José.
C'est pour quelle raison ? Parce que vous avez bouleversé complètement toutes les chaînes d'information.
Ah non, ne dites pas ça.
Moi, oui, pour moi, qui était dans le politiquement correct, le lénifiant, on parle de ce qui nous arrange. D'accord.
Bon, vous êtes gentil, José, mais on est sur RTL.
Non, je suis d'accord, mais enfin, je voulais vous le dire, d'accord.
Eh bien, vous êtes adorable, merci.
Voilà, et c'est pour ça que je passe ma vie sur CNews, par votre faute.
Oui, là, on est sur RTL,
voilà. José. Alors, ce que je voulais vous dire sur Zemmour, c'est insupportable, monsieur Pro, cette désinformation des politiques. Par exemple, bon, cet acharnement, la peste brune, le virus, la danseuse étoile Castaner qui dit c'est l'ennemi de la République, c'est un fasciste, ils ne savent plus quoi trouver, vous voyez, pour le massacrer. Et puis cette désinformation, quand il dit il ne connaît rien en politique en économie, il ne connaît rien en politique étrangère, est-ce que vous l'avez entendu parler avec Hubert Védrine ? C'était de très haut niveau. Est-ce que vous l'avez entendu parler il y a un an et demi en arrière avec un type qui a été président de grands groupes industriels internationaux qui parlait d'économie. C'était impressionnant. Et à la sortie, le type, il avait même dit, ce type, c'est une mécanique intellectuelle redoutable. Hein? Mais moi, quand j'entends dire des abrutis, des ignorants qui ne connaissent rien en économie, même sur certains de vos plateaux, c'est une honte. Vous comprenez,
mais José, vous pourrez voter, c'est le principe de la démocratie. Tous les avis sont dans la nature et puis après, les gens choisissent.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est la désinformation.
La désinformation, des gens qui n'ont pas le même avis qu'Éric Zemmour, ils ont le droit.
Non, mais je parle quand ils disent qu'ils ne connaissent rien en économie.
Mais ça, ce sont ses adversaires qui disent ça.
Voilà, oui, mais...
Vous dites désinformation, l'information, ça serait ennuyeux si c'était des journalistes qui sortaient de leur neutralité.
Non, mais
même
dire,
si, effectivement, l'engagement existe aussi pour les journalistes.
Non, mais je veux dire pas là, monsieur Pro, c'est l'AREM. Pourquoi dire ça alors que c'est faux? Vous comprenez ce que je veux dire?
Mais parce que c'est le principe de la bataille politique.
Si j'avais un polytechnicien, que je dise, il est nul en mathématiques.
Mais José, je vais vous dire, moi j'ai une grille de lecture sur Éric Zemmour, je me trompe peut-être, je pense que c'est contre-productif de l'attaquer comme j'entends parfois des attaques sur lui. Il y a beaucoup de manières où on peut l'attaquer, me semble-t-il, mais si vous expliquez aux uns et aux autres que Éric Zemmour est un fasciste, je ne pense pas que ce soit le bon argument.
Sûr, parce, voilà, en plus, quand ils disent qu'il est provocant, c'est sa nature.
Il peut provoquer ça, en revanche, c'est un provocateur, ça je vous confirme.
Il a peur de rien, monsieur Pro. Zemmour, qu'est-ce que c'est? C'est la créature de la droite. Ils ont baissé leur culotte, parlez-moi l'expression, arrangement entre amis, arrangement pour avoir des postes, d'accord, compromission dans beaucoup de domaines, on vote pour la gauche, pour pour le centre Sierra. Vous comprenez pour tout ça.
J'entendais, comme il est 23 et que ça va être le débrief, ce que je vous propose, c'est la première fois que vous nous appeliez, José ?
Oui.
Eh bien, vous allez nous rappeler, parce que vous dites. Eh bien, vous êtes très sympa d'abord, et c'est intéressant ce que vous dites. On peut ne pas être d'accord, bien évidemment, mais vous allez nous rappeler parce qu'il est déjà 14h23 et c'est l'heure du débrief de Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Un lit sur cinq est fermé à l'hôpital public faute de personnel. Un manque qui se ressent dans tout le pays. Il n'y a plus assez de soignants en France et ce n'est pas nouveau. Anne a quitté le milieu hospitalier il y a 40 ans.
Bah à l'époque, j'étais de nuit. J'étais seule pour 80 patients. Mmh. Et je ne pouvais attendre aucun renfort. J'ai très vite déchanté après justement mes prises de fonction en hôpital public.
Et forcément, sujet santé, nous avons appelé le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Ça faisait longtemps. Comment va-t-il ? Prenons des nouvelles.
Vous en êtes à combien de doses, Jérôme Marty ?
Oh, je ne les compte plus.
Oh ! Oh là là, attendez, Jérôme Marty est-il en train de battre un record de doses injectées ? Est-il devenu addict au Pfizer ? Il faut y voir plus clair.
Non, mais combien de doses pour vous-même ? Arrêtez.
Ah, pour moi-même, pardon.
Pour vous-même.
Combien j'ai vacciné ? Non, j'ai fait 3 doses, moi.
Ah, nous voilà rassurés. Sinon, je m'inquiète pour vous, Ami Pascal. J'ai l'impression que vous avez attrapé froid.
Tout à l'heure, on l'entendait mal.
Oui.
Pardonnez-moi, Philippe.
Vous voyez, oui.
À vos souhaits, mais votre éternuement dure, ce n'est pas nouveau.
C'est Laurent. Pardonnez-moi, Laurent, mais.
Ah, il va falloir baisser cette clim, rester en forme, car nous avons besoin de vous pour vendre des véhicules.
La voiture électrique, vous savez que la première voiture le plus vendue en Europe au mois de septembre est une Tesla Model 3. C'est une voiture électrique.
Encore faut-il avoir une borne.
Oui, non, mais là, il y a 600 km d'autonomie pour cette voiture. Mais elle est particulièrement chère.
C'est bien noté. Mesdames, messieurs, si vous aimez les échanges surréalistes entre Pascal Praud et Julien Courbet, un nouvel épisode ce midi.
Un joueur du PSG dépouillé par une prostituée au bois de Boulogne, il s'est fait voler son portefeuille, 200 euros.
Mais écoutez, on va se pencher sur cette information.
Ah bah oui, parce que ça vaut le coup.
Je suis un peu surpris par cet humour de garde champêtre, mais je n'y attendais pas.
Attaque ultime, mais Julien réagit immédiatement.
C'est vrai, ça vient de sortir. Vous regarderez sur votre portable bon marché. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Ben justement, du pouvoir d'achat.
Ben
cher
voilà. Il y en a une qui a augmenté son pouvoir d'achat de 200 euros.
Et vous nous avez parlé pouvoir d'achat justement ce midi dans l'émission. Notre monsieur Boubouk a encore sorti des perles.
La blague du jour d'Olivier Guénec.
Olivier vient de Savoie. A-t-il remarqué une différence de prix en allant faire ses courses entre son département natal et la capitale ?
Je n'achetais rien du tout en Savoie, donc je ne peux pas vraiment comparer. Quoi. Ici, je n'achète que des gnocchis, donc je ne sais pas si ça compte. Quoi.
Ce garçon est une surprise quasiment
tous
permanente.
Les jours, tous les jours, on a une surprise.
C'est-à-dire que les questions les plus simples, il y a une vraie poésie.
Oui, c'est vrai.
On peut dire ça comme ça, bon, tant qu'on y est, finissons-le, Pascal, avec une autre question.
Maintenant, vous connaissez Madame qui habitait maintenant.
Madame maintenant ?
Non. Madame de maintenant.
Non, je la connais pas.
Vous ne connaissez pas Madame de maintenant.
Non.
Oh, elle était.
Qui est-ce ?
C'était une femme illustre.
D'accord, Pascal, ouais. Bah écoutez. Bon. Voilà, je m'endormirai moins bête.
Allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui représente Monsieur Boubouk.
Je fais rien que des bêtises.
Sabine Paturel. Bon, monsieur.
Voilà qui est rafraîchissant.
Bien sûr.
Jean-Alphonse. Ah ben là, moi, c'est
belle histoire, si j'ose dire.
Chose, la colère, la terrible colère d'un homme, Béranger Bruns, le terrifiant secret du marché Saint-Martin. C'est tout de suite dans l'heure du crime, 14h30.
Mmh. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.